Bonjour. Alors, vous savez, avec l'âge, on a la vue qui baisse, et donc je vous invite à vous rapprocher. Je ne vois pas ceux du fond là-bas. Non, je plaisante, je vous vois, mais je vous invite à venir quand même pour vous rapprocher et qu'on fasse plus corps là. Et ceux qui sont au milieu peuvent se rapprocher d'un cran et ceux qui sont derrière de trois crans, enfin de trois rangs. Moi, je viens d'apprendre, comme peut-être plusieurs d'entre vous, pour Frédéric et avec Laura, on va se joindre à vous dans la prière. On connaît bien Frédéric, on vous connaît depuis presque 11 ans maintenant. C'était les débuts du culte francophone à l'époque. Et, super, ah, j'ai déjà, merci beaucoup. Et voilà, on a du plaisir à toujours venir vous voir et à avoir de vos nouvelles. Et donc, on va bien sûr se joindre à la prière pour notre frère Frédéric. Vous m'entendez bien ? Ça va ? Et voilà, on a beaucoup de plaisir avec Laura et les enfants d'être là. Et on vous transmet nos salutations. On ne pourra pas rester longtemps avec vous après. Alors, j'ai appris que vous aviez un pique-nique au Tremblay, et nous, on a eu un culte de baptême en début d'après-midi, donc on ne pourra pas rester longtemps avec vous. En tout cas, c'est une bonne chose que vous ayez commencé cette thématique « Dieu, qui es-tu ?» C'est bien ça, hein ?« Dieu, qui es-tu ?» Alors, vous avez déjà eu un thème la semaine dernière. Ça revient à se poser la question des attributs de Dieu. Qui est Dieu ? Qu'est-ce qui le caractérise ? Et souvent, quand on pense aux attributs de Dieu, en premier, ce qui vient, c'est Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, il peut faire toutes choses, Dieu est souverain, Dieu est juste, Dieu est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La notion d'attribut communicable et non communicable aussi, je pense que vous en avez déjà parlé. Il y a un attribut peut-être auquel on pense, mais pas forcément en premier. Et pourtant, c'est un des attributs, une des choses qui caractérise Dieu et qui devrait presque venir en premier, il me semble. Et j'ai demandé à Dan de m'envoyer votre confession de foi pour pouvoir lire la confession de foi de votre église. Et j'étais heureux de voir que dans cette confession de foi, il y a cette mention du Dieu qui est vrai. Alors, le mot vrai n'apparaît pas, mais en tout cas, vous dites le Dieu, le seul Dieu. Et voici ce que dit la partie sur Dieu de votre confession de foi. Il y a un seul Dieu, infini, éternel, tout-puissant et parfait, un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est bien, effectivement, de mentionner qu'il y a un seul Dieu. Et dans ce même fichier, dans lequel il y a la confession de foi de votre assemblée, de votre église, il y a également le symbole de Nicée-Constantinople, alors là, qui est un texte dans l'histoire de l'église qui fait date. On est dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne. Et voici ce qu'il dit. Nous croyons en un seul Dieu, là aussi c'est dit, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, etc. etc. Jésus-Christ est vrai Dieu, et il vient de vrai Dieu. Jésus-Christ, le Fils, est vrai Dieu, et il vient du Père qui est vrai Dieu. Alors, Dieu qui es-tu ? Eh bien, ça fait dire en premier que Dieu est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et toute la parole de Dieu est, on pourrait dire, une apologie, c'est-à-dire une défense qui va dans ce sens-là pour authentifier que Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu qui se révèle dans sa parole, par sa parole. Il est le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et d'ailleurs, quel est le premier verset de la Bible ? Je vous écoute. Voilà. Au commencement, Dieu créa, ta 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 ta, etc. Au commencement, Dieu créa. Et il me semble que vous avez déjà abordé cette thématique la semaine dernière. Je ne vais pas revenir dessus, mais simplement, je constate avec vous que dès le départ, Nous sommes placés devant le Dieu unique, le Dieu éternel, le Dieu infini qui a créé d'une manière puissante et souveraine tout ce qui existe, à l'exception d'une chose, le mal. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine du mal, et ça c'est un autre sujet. Mais il faut le préciser quand je dis ce que je viens de dire. Au commencement, donc, il y avait Dieu. Et on apprend que Dieu a créé. Autrement dit, tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, est obligatoirement le fruit de sa création, à l'exception du mal. Même le diable n'est pas à l'égal de Dieu. Le diable, on apprend par ailleurs dans l'Écriture qu'il est une créature de Dieu qui s'est rebellée, mais il n'est pas comme dans certaines mythologies anciennes, le bien, le mal qui s'affrontent comme cela. Il y a vraiment la manière dont la Bible présente les choses, on a Dieu et sa création. Et Dieu est souverain, tout puissant sur cette création. Lui seul mérite l'adoration qui lui est due pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et c'est ce que Jésus dit lorsqu'il est tenté dans le désert par le diable précisément. Il lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Autrement dit, toute chose ou toute personne autre que Dieu qui serait adoré est par conséquent un faux Dieu, est par conséquent une idole. Et la Bible appelle cela l'idolâtrie. Et à de nombreuses reprises, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament donnent on y trouve des textes qui vont dans le sens de cette défense du vrai et unique Dieu aux dépens des faux dieux que les hommes se sont fabriqués dans toute l'histoire de l'humanité. Et parmi tous ces textes, j'aimerais en lire un avec vous. Alors je vous mets juste la référence, mais je vous invite à suivre dans votre Bible ou dans votre smartphone. Et je vais le lire dans la Bible du Semeur, ce texte de Jérémie 10, versets 1 à 16. Jérémie 10, versets 1 à 16. Ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. On l'embellit d'argent ou d'or, un marteau et des clous le font tenir en place pour qu'il ne branle pas. Ces dieux-là sont semblables à des épouvantails dans un champ de concombres. Ils ne savent pas parler. Il faut qu'on les transporte car ils ne marchent pas. Ne les craignez donc pas. Ils ne font pas de mal et ils ne peuvent pas non plus faire du bien. Verset 6. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Car tu es grand, et parce que tu es puissant, ta renommée est grande. Qui donc ne te craindrait, ô roi des peuples ? On doit te craindre, car parmi tous les sages de tous les peuples et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Et on le chante souvent, ça, hein, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi. Verset 8, tous en effet, sans exception, ils sont insensés et stupides. Et leur enseignement est une absurdité, car ils ne portent que sur un dieu en bois. C'est de l'argent battu à portée de Tarsis, de l'or venu d'Ouphaz, une œuvre de sculpteur, le travail d'un orfèvre. On revêt ces dieux-là de vêtements de pourpre et d'étoffes d'azur, mais tous ne sont l'œuvre que d'habiles ouvriers. Mais l'Éternel est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Par sa colère, la terre est ébranlée et les peuples ne peuvent soutenir son courroux. Vous leur direz ceci, les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre disparaîtront de dessus cette terre et de dessous ce ciel. L'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Des nuages s'élèvent des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu des averses et il fait s'élancer le vent de ses réserves. Alors, tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Tout orfèvre est honteux de son idole, car sa statue de fonte est une tromperie qui n'a en elle aucun souffle de vie. Ils ne sont que néants et œuvres illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Mais combien est différent le Dieu qui est la part du peuple de Jacob ? Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On en trouve plein des plaidoyers de ce type dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et Jérémie, le prophète qui a écrit donc cela, conduit par l'Éternel, par le Saint-Esprit, bien sûr, il a fort à faire avec une population de Juda qui ne marche pas toujours dans la bonne direction. Et en particulier, à cette époque-là, dans le contexte où Jérémie dit ces choses, c'est le roi Jéhoiakim qui est au pouvoir. On est en 609 avant Jésus-Christ. Et avec Jéhoiakim, l'idolâtrie ressurgit. On se remet à sortir toutes les anciennes idoles de certains anciens rois. Et Jérémie est obligé de dire cela. Enfin, c'est l'Éternel qui fait dire à Jérémie toutes ces choses pour réorienter les regards, un peu comme on l'a chanté dans le chant tout à l'heure, de tourner nos regards vers l'œuvre et Dieu et d'oublier, de rejeter, d'abandonner toutes ces anciennes idoles. Et là, on voit dans ce texte que Jérémie met en contraste les idoles, les faux dieux, avec le seul vrai Dieu, l'Éternel. Et vous avez remarqué, il y a parfois un peu d'humour, il y a un tableau qui est dressé. Voici comment sont les idoles, mais regardez comment est l'Éternel. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire, je vais juste citer deux ou trois exemples. Par exemple, les idoles sont fabriquées en bois par un sculpteur, mais Dieu, lui, personne ne l'a créé. C'est même lui qui a créé le ciel et la terre. Mais personne ne l'a créé, lui, il est éternel, il existe de toute éternité. Les idoles ne sont que tromperies, néant, œuvre illusoire, mais Dieu est bien différent, lui qui est le Dieu de son peuple. Et par conséquent, les Israélites, et nous de surcroît, le peuple de Dieu aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, l'Église, il nous faut nous attacher à ce Seigneur seul, non seulement parce qu'il est le seul vrai Dieu, mais aussi parce que nous sommes son peuple et c'est ce qu'il attend de nous. Et j'aimerais que nous réfléchissions à plusieurs applications, je vais m'arrêter là sur ce texte, mais réfléchir à plusieurs applications pour nous aujourd'hui. La première application, j'aimerais vous encourager à identifier quelles sont vos idoles. Pour nous qui sommes du monde occidental, même si vous avez des racines chinoises et donc des racines qui sont plutôt dans l'Asie du Sud-Est, mais quand même, la plupart d'entre vous, vous êtes nés ici, je pense, les jeunes auxquels je m'adresse aujourd'hui, eh bien, nous ne sommes pas toujours familiarisés avec des divinités qu'on peut trouver aux quatre coins du monde, dans les milieux animistes, hindous, bouddhistes, un petit peu peut-être un peu plus, musulmans, etc. Et ce n'est pas toujours simple d'identifier des dieux devant lesquels nous nous agenouillons, parfois même sans nous en rendre compte. Quand nous pensons à des idoles, naturellement, on se dit, les idoles, on imagine des petites statuettes qu'on met dans un coin de la pièce ou quelque part, ou sur la cheminée, ou un endroit qu'on va voir, devant lesquels on va apporter des petites offrandes parfois, qu'on va prier, etc., etc. C'est vrai que c'était souvent ce contexte-là du temps où Jérémie le prophète Jérémie a parlé. Mais on a tendance à oublier que l'idolâtrie, avec le temps, elle a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on parlerait plutôt d'idolâtrie moderne. Tout ce qui, dans notre vie, vient de manière insidieuse, vous voyez, on ne s'en rend pas toujours compte, prendre la place qui, normalement, reviendrait à qui ? À Dieu, à l'Éternel, au seul vrai Dieu. Et donc, apprenons à identifier tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Peut-être pour l'un ou l'autre d'entre vous, ce serait le fait de monter, de rechercher, d'être engagé dans cette course effrénée pour monter dans l'échelle sociale. Il faut gagner dans les postes, il faut devenir chef, il faut monter, il faut gravir. Pour certaines personnes, et j'en connais autour de moi, c'est devenu le but de leur vie. Je pars travailler au matin, c'est pour avoir la place et être au-dessus. Peut-être pour d'autres, ce sera l'amour de l'argent. Qu'est-ce qui se passerait si demain, du jour au lendemain, vous n'avez plus d'argent ? Vous avez tout perdu. Tout ce que vous avez gagné en tant et tant de mois et d'années, d'un seul coup, paf, ça s'évapore. Il n'y a plus rien. Où est votre cœur ? Peut-être pour d'autres, ce seront les possessions matérielles qui sont largement entretenues par la société de consommation dans laquelle nous vivons. Et là, il y a plein de choses qu'on pourrait désigner et qui prennent une place folle dans notre vie. Le smartphone, par exemple. Les voitures. Peut-être pour d'autres, c'est le fait d'être accro au shopping. Et là, il me semble que cette semaine, ce sont les soldes qui vont démarrer. Et voilà, comment est-ce qu'on se positionne là quand les soldes arrivent ? Est-ce qu'on est... Alors, je vais commencer par tel magasin, ensuite je vais dans tel autre. Le fait peut-être pour d'autres d'être omnubilé par son physique. Et je ne m'adresse pas qu'aux demoiselles et mesdames. Je m'adresse aussi aux messieurs. Parfois même, cette omnubilation nous amène à avoir des régimes, à une alimentation qui n'est pas équilibrée et on se fait mal, en fait, à notre corps. Inversement, pour d'autres, ce seront les excès de table. C'est aussi une idolâtrie. Manger pour manger, j'aime manger, je vis pour manger. Même nos inquiétudes peuvent être une idolâtrie quand elles sont tournées vers notre propre personne, lorsque nous sommes en souci pour notre bien-être. On est soi-même l'objet de notre idole, c'est nous-mêmes l'idole. Ou encore, un grand nombre de ces séries télévisées dont on ne sait plus s'arrêter. On en a commencé une. Et puis, il faut aller jusqu'au bout. Je me souviens de deux personnes un jour qui disaient « Oh là là, on a commencé une série télé, mais bon, elle n'est pas si bien que ça, en fait. Mais on est toujours attiré de regarder l'épisode suivant. » Et puis, en fait, ils ont regardé les trois saisons. Et puis, à la fin, ils ont dit « On a perdu notre temps. » Mais oui, mais les séries télé, elles sont bien faites. Hein. Elles sont faites pour nous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde et on n'a qu'une seule envie, c'est de regarder l'épisode suivant et ainsi de suite. Toutes ces choses qu'on peut trouver sur Internet et qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, la pornographie ou même sans aller jusque-là, tous ces films qui entretiennent des valeurs qui sont loin d'être celles que la Bible prône. Peut-être pour d'autres encore, ce seront... Cette adoration passionnée du sport. Peut-être pour d'autres, ce seront non pas le sport en lui-même, mais un sportif, ou un chanteur, ou une chanteuse, dont on a tous les albums, qu'on va voir dans les stades, ou qu'on va voir dans les concerts. il faut tout voir, il faut tout avoir de cette personne, il faut lui ressembler, il faut être comme elle. Parfois même, c'est une simple personne de notre entourage qui peut devenir l'objet de cette idolâtrie. Un conjoint, un enfant, qu'on surprotège, qu'on entoure, dont on veut tout le bien, et c'est normal. Mais quand on regarde de plus près, cette personne, elle tient une place qui détrône Dieu à la première place de notre vie. Alors, en énumérant tout cela, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas monter dans l'échelle sociale. En disant tout cela, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas gagner de l'argent qui est le fruit de notre travail, ou qu'il ne faut pas se racheter un nouveau smartphone de temps en temps, ou je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne pas s'intéresser à sa personne, ou ne pas aller faire des soldes. Profitons des soldes, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire plaisir en mangeant et en mangeant bien. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut pas s'inquiéter au profit de l'insouciance. C'est normal de s'inquiéter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas et jamais regarder de séries télévision ou quoi, etc., etc. Je dis simplement qu'il nous faut faire usage de discernement. Il nous faut être lucide sur la part que toutes ces choses et toutes ces personnes peuvent prendre dans notre vie. Ces choses, ces personnes qui, dans notre quotidien, si nous n'y prenons pas garde, peuvent très rapidement, sans même nous en rendre compte parfois, détrôner Dieu de sa place au profit de l'une de ces choses ou l'une de ces personnes. Peut-être quelqu'un d'entre vous dira « Bah, je me sens concerné par rien de tout ce qui est là ». En tout cas, à un degré, comme je l'ai mentionné. Alors à ce moment-là, je dirais « Attention, soyez sensibles à vos limites ». Car il y en a un, le diable, qui connaît nos limites et qui sait aller nous titiller là où ça fait mal. Soyons avertis, parce que le diable sait se déguiser en ange de lumière. Le diable, il sait que si demain il y a une statuette qui arrive du fin fond de l'Indonésie, on ne va pas s'agenouiller devant. Par contre, il saura attirer notre attention vers des choses de cette idolâtrie moderne dont on a parlé à l'instant, et qui petit à petit risque de prendre cette place qui revient à Dieu. Il saura attirer nos regards, notre cœur, vers ces choses attirantes, ces choses lumineuses, ces choses qui produisent un plaisir éphémère, et j'insiste sur le mot éphémère, qui ne dure qu'un temps très court. Combien de fois il est arrivé à Israël, on le voit dans le prophète Jérémie, mais plein de fois dans l'Ancien Testament, et parfois même aussi à l'Église, de se détourner de l'Éternel, du vrai Dieu, comme Jérémie l'a reproché dans ce même livre. Je vous lis ce texte au chapitre 2. Jérémie dit ceci, « Rendez-vous dans les îles de Chypre et regardez. » Ou envoyer des hommes à Kédar et qu'ils observent bien. Voyez si jamais il arrive une chose pareille. Existe-t-il un peuple qui ait changé de Dieu ? Sous-entendu, non. Et pourtant, ces dieux-là ne sont même pas de vrais dieux. Mon peuple, quant à lui, donc Israël, a échangé celui qui a fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. Cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés, l'Éternel le déclare, car mon peuple a commis un double mal. Premièrement, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et deuxièmement, il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Cette image très parlante pour souligner de la folie, de la bêtise, l'aberration de l'idolâtrie. Abandonner le Dieu vivant et vrai au profit de ceux qui n'apportent rien, qui ne sont en fait que des citernes fissurées. L'eau, une citerne fissurée, l'eau elle coule. Vous arrivez à la citerne, il n'y a pas d'eau. Vous arrivez devant les faux dieux, ils n'apportent rien de concret. Ils ne créent rien, ils ne font même pas de bien. Même des peuples qui croient en de faux dieux ne changent pas et restent fidèles à leurs faux dieux. C'est incroyable, c'est ce qu'il dit là. Alors à combien plus forte raison, nous qui connaissons le vrai Dieu, nous devons identifier les idoles pour les rejeter. Et ça m'amène du coup à cette deuxième application. C'est qu'une fois que nous identifions nos idoles, il nous faut prendre les choses à bras le corps pour les enlever de notre vie. Un peu comme dans ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Rends-nous des mains pures, donne-nous des mains pures, se détourner des idoles. Voyez ce que Paul dit en 1 Thessaloniciens 1, verset 9. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a deux mouvements dans ce texte que j'ai mis en deux couleurs différentes. Déjà, il y a le fait de se détourner des idoles en vert, c'est se décider, détourner de notre ancienne manière de vivre pour ensuite pouvoir se tourner vers Dieu, vers une nouvelle manière de vivre dans laquelle on va servir le Dieu vivant et vrai. La conversion, ce n'est pas seulement prier pour Dieu, prier Dieu pour lui dire « Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu m'as créé et je crois que Jésus est ton fils et que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. » La conversion, ce n'est pas seulement ça. La conversion, c'est dire à Dieu exactement ce que je viens de dire et de rajouter « Et je me détourne de mes péchés. » Je les abandonne pour te servir, toi le Dieu vivant et vrai. La conversion, c'est la repentance et la foi. Et ça, retenez-le bien. La conversion, c'est le fait de se détourner de nos idoles. La repentance, c'est ce demi-tour radical dans notre vie. Pourquoi ? Pour servir le Dieu vivant et vrai, par la foi. Et ça, c'est la conversion. Et on ne doit pas oublier l'aspect repentance qu'on a parfois tendance à oublier. Je me souviens d'une personne que Laura et moi avons rencontrée il y a plusieurs années. Nous en sommes venus à parler de Dieu avec elle, du vrai Dieu. On a lu la Bible ensemble. Et puis, elle a fait une démarche de conversion, de repentance, de foi. Et puis, un jour, elle lisait la Bible et elle est tombée sur ce texte-là. Je vous lis ce texte, acte 19. « Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient et avouaient et déclaraient publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. » Donc une somme astronomique pour l'époque. Et donc cette personne vient nous trouver, Laura et moi, et elle nous dit « Moi j'ai fricoté avec tout ça, avec la magie, avec... » elle n'a pas parlé de sorcellerie, mais en tout cas de l'astrologie, de toutes ces pratiques dont la Bible dit que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et elle nous a dit « Voilà, j'aimerais, comme c'est dit dans ce texte, j'aimerais brûler tout ça. » Et avec Laura, avec cette personne et avec encore d'autres personnes qui se sont jointes à nous, on a passé plus de 3 heures à tout brûler. Et je peux vous dire qu'il y en avait. J'évoque ce passage, cette histoire, parce que le message de l'Évangile dans lequel nous croyons implique une détermination à abandonner nos idoles, à les rejeter. Et parfois même, s'il le faut, à entreprendre des choses drastiques. Voilà, je brûle tout, les cartes, les classeurs, tout, comme cette personne. Et aussi, ça implique cette détermination à servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est vraiment capital pour notre vie de bien identifier ces idoles pour pouvoir bien lutter contre. Ça n'aurait pas de sens de se prétendre de Dieu, de croire en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous à la croix, tout en étant soi-même notre petit Dieu. en comptant sur nous-mêmes, en ne changeant pas nos priorités dans la vie, en ne changeant pas notre manière de vivre. L'évangile, le message de l'évangile implique que nous soyons catégoriques, que nous soyons radicales, que nous soyons déterminés sans sauter d'un côté et de l'autre. Et ça me fait penser à ce texte de Élie, quand il parle aux 450 prophètes de Baal, il leur dit ceci: « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » C'est radical. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On a ça dans l'évangile de Matthieu. Il y a d'autres textes qu'on pourrait citer également. Je pense à Josué 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, » dit Josué. Je pense encore à cet autre passage qui met en avant cette radicalité, là pour le coup d'une manière surprenante. On est dans la lettre de Jean. C'est l'avant-dernier verset de la lettre. Il dit ceci: « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. » C'est l'avant-dernier verset de la lettre. On pourrait se dire, le dernier verset, c'est une lettre, voilà, je vous salue, saluez-vous par un saint baiser, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, etc. Point final. Et en fait, pas du tout. Le dernier verset, mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Point final. Fin de la lettre. En fait, c'est une évidence ce que Jean est en train de dire ici. C'est quand on est uni au Dieu véritable, de par notre union avec son Fils Jésus-Christ, on ne peut pas entretenir des relations avec des idoles. Il n'y a pas de place pour l'idolâtrie, ça n'a pas de sens. Le culte des idoles est incompatible avec la connaissance du Dieu véritable. Ça, c'est la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, cette connaissance du Dieu véritable. Et donc l'évangile, le fait de connaître le vrai Dieu, implique une vie radicale, déterminée pour pouvoir le servir. Et j'en arrive à la troisième et dernière application. La vie éternelle, toujours chez Jean dans l'évangile, consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je m'adresse la plupart d'entre vous, même si je ne connais pas vos cœurs et il n'y a que Dieu qui sait, mais je m'adresse la plupart d'entre vous à des enfants de Dieu. Vous avez fait cette démarche de conversion, vous êtes engagés à le suivre, vous avez reçu cette vie éternelle parce que vous connaissez le Dieu véritable, le vrai Dieu. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissent pas ce Dieu-là et qui se perdent, et qui par conséquent n'ont pas la vie éternelle. Et un des rôles que Dieu nous confie en tant que ses enfants, c'est de le faire connaître à ceux autour de nous qui ne le connaissent pas. Vous savez, ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, comme ce qu'on entend dans la plupart des manifestations qu'il y a dans les différentes villes de France. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas que leur équipe nationale féminine gagne la Coupe du Monde de football. Ça n'apporterait qu'un baume au cœur et un plaisir éphémère. Souvenez-vous d'ailleurs, il y a un an, c'était notre équipe nationale, masculine cette fois-ci, qui gagnait. Bon, on en a entendu parler un moment et puis voilà. On a rajouté une deuxième étoile. Et puis voilà. Mais est-ce que ça a changé? Est-ce que l'année 2018-2019 a été meilleure pour autant? Je ne pense pas. Ce dont le monde a besoin, c'est bien plus qu'un bonheur éphémère. Ce dont le monde a besoin, c'est de connaître le vrai Dieu. et celui qui l'a envoyé, son Fils, Jésus-Christ. Et notre rôle à nous qui sommes disciples de Jésus, c'est de faire de nouveaux disciples qui vont s'engager à suivre Jésus, à le servir, qui vont se faire baptiser comme, pour reprendre ce texte de Matthieu 28, allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le monde a besoin d'entendre que tout ce en quoi il place sa confiance, sa joie, son espérance et qui est de ce monde n'apportera rien de plus qu'un bonheur éphémère. Les faux dieux, les idoles modernes ne peuvent pas tenir leurs promesses. Il n'y a que le Dieu qui se révèle dans la Bible par sa parole qui est le vrai Dieu et dont les promesses sont véritables. Tous les dieux de ce monde n'apportent que désillusion, déception, frustration. Ces idoles ne sont que des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Alors faisons connaître Jésus à ceux qui nous entourent, lui qui est la source d'eau vive. Je résume avec cette dernière diapo et ces trois applications que je nous laisse, ne passez pas à côté de ces trois applications. L'une, les deux premières, vous concernent vous, impliquent dans votre propre vie, et la troisième, c'est plutôt ce rayonnement que l'on est censé avoir dans le monde, là où nous sommes, dans le quartier, dans la rue, dans nos lieux de vie, dans nos métiers, etc. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et je vous invite à un temps de silence. Je ne vais pas prier, mais simplement un temps de silence pour faire résonner ce que je viens de dire là dans votre cœur.